bonjour, bonsoir, on est le matin et des fois on est le soir, en quête de cinéma, une émission que vous trouvez sur Radio Galère à 21h30, 88.4, tous les lundis du mois, et aussi en podcast sur dérive.tv. Aujourd'hui, on est content d'accueillir Guillaume Bordier, voilà, un cinéaste vers la région Midi-Pyrénées, vers le Lot, voilà. Hier, il y avait une rétrospective de quelques-uns de ses films organisés par le collectif Numéro Zéro. C'était au Vidéodrome 2, c'était en parallèle d'une projection en plein air autour de la lutte qui se mène à la plaine et aussi autour de la question des immeubles qui se sont effondrés et qui nous rendent un peu tristes et en colère. Surtout du film qu'on a vu hier soir, Le Reflux. Et pour commencer, on va écouter le début du film Le Reflux de Guillaume Bordier, réalisé en 2012.
Donc Didier, on est sur un plateau dans un studio. Parce que ma première idée au départ, c'était de tourner chez toi, dans ton appartement.
Oui, je sais tout.
Donc je voulais savoir, pourquoi tu avais refusé fermement de tourner chez toi?
Parce que c'est pas beau chez moi. Et puis on n'aurait pas pensé que j'étais un homme de goût.
Non mais c'était bruyant chez moi, c'est bruyant, c'est pas...
Et puis... Non, vaut mieux un endroit neutre. Ça libère la parole, je trouve mieux. On se sent moins violé. C'est un viol d'intimité, un peu. Enfin, il faut comprendre ça comme je le dis, mais... Même si t'es bienveillant et tout, c'est déjà tellement déballage, tout ça, que... Enfin, c'était difficile pour moi. Mais ça l'est encore.
Et tu m'as dit aussi que tu avais un souci avec le fait de dévoiler un peu le dispositif, là, comme on le fait.
Oui, parce que... T'aimes bien appuyer où ça fait mal.
C'est-à-dire ?
Une autre question?
Ça veut dire quoi, j'aime bien appuyer, ça fait mal?
Bah, comme tous les cinéastes.
Qu'est-ce qui te dérange dans le fait de dévoiler le dispositif?
Bah, il y avait quelque chose qui... On avait du mal à comprendre, peut-être que là... On est dans une impasse, hein, Guillaume.
Non, mais je comprends pas ce que tu veux dire.
Non, mais là, on est dans une impasse.
Dis-moi plus clairement.
Ah oui, c'est le trac qui m'empêche de m'exprimer.
Mais c'est pas grave. Continue. Ce que tu m'as dit tout à l'heure, là. Tu avais commencé quelque chose.
Tu m'aurais dit couper si c'était de la péloche.
Tu veux qu'on coupe?
Si c'était de la péloche, tu aurais déjà dit couper. Parce que ça coûte la peau des fesses.
Il faut profiter des outils qu'on a.
Oui. C'est des outils de torture.
Et tu souris en disant ça?
Le sourire a la politesse du désespoir.
Moi, j'aimerais bien qu'avant, je coupe, mais je voudrais quand même que tu me dises là cette histoire de dispositif. C'était intéressant, je crois. Que ça allait dévoiler quelque chose de toi là que tu voulais pas.
Oui, ça va dévoiler le fait que je suis un acteur et que si je suis un acteur pour ça, je peux être un acteur pour tout le reste. Et je suis pas un acteur pour tout le reste. Je suis un acteur comme tous les hommes.
Alors voilà le reflux de Guillaume Bordier. C'est le premier plan séquence. On est avec Guillaume en quête de cinéma. C'est assez intense ce que vous nous donnez pour entrer dans le film, parce qu'il ne On sent une intensité de la relation. On se retrouve aussi avec un personnage, personne qui a un rapport assez intense à la question du cinéma, à la question de lui. Il y a aussi quelque chose de très proche entre vous et puis aussi un jeu de mise en conflit. Et ça me donne envie de te poser la question de comment s'est construit ce désir qui semble commun de vivre cette aventure.
C'était très progressif en fait parce que il s'est passé avant de faire le film, je le connaissais déjà depuis 6 ans, je pense, Didier. Et quand on s'est rencontrés, enfin assez vite m'est venue l'envie de faire un film avec lui, mais c'était assez vague. Je savais que c'était autour de la prison, mais bon, c'était très vague. Et parce que Didier, il en parlait très facilement de la prison. Donc je lui en ai parlé, il était très enthousiaste. Mais bon, c'était une idée comme ça, un peu, on ne savait pas quoi. Et donc les années ont passé, puis j'y réfléchissais, puis bon, les choses mettent toujours beaucoup de temps à mûrir pour moi, pour faire un film, etc. Et puis ça s'est précisé pour moi de ça, que pour moi la question du film, elle devait être au cœur, enfin la question c'était sa parole même, quoi, Didier, c'est ça qui m'intéressait, c'était sa parole. Le fait que sa parole puisse changer, la difficulté à pouvoir prendre la parole quand tu as fait de la prison, comme il a fait lui. Et donc, quand ça s'est vraiment précisé, j'en ai parlé, il était toujours partant, mais voilà, j'ai commencé à comprendre que ça allait être plus compliqué pour lui que prévu, parce qu'effectivement, il parle très très facilement, mais se mettre à nu devant une caméra... ça allait être compliqué, donc voilà, moi j'ai construit le film autour de cette difficulté à prendre la parole, autour du fait que la parole, parfois, il disait pas forcément ce qu'il me disait hors film, voilà, donc, et sur quand même le fait qu'il a envie de participer à ça, parce que à la fois il est réticent dans l'extrait, on sent qu'il y a des choses pour lesquelles il est réticent, mais c'est quand même aussi... c'est quand même très enthousiaste du fait de pour faire ce film, même si il a écourté un peu le tournage, etc. C'était dur, c'était tendu, mais il y avait quand même une aventure commune. Ouais.
D'accord. Et donc ça commence ce plan séquence. Moi, il y a deux choses que je voulais évoquer. Tu parles de la parole, et on y reviendra après. Mais moi, la première chose que je vais évoquer, c'est que parce que moi, je me positionne en tant que spectateur mais aussi cinéaste, et il dit quelque chose de très intense. Il dit tu vas appuyer là où ça fait mal, ce qui est un peu la fonction de je sais pas comment il dit, de...
Il dit comme tous les cinéastes.
Comme tous les cinéastes. Et j'aimerais bien que tu me... Qu'est-ce que tu peux nous dire autour de ça, par rapport à toi, ta position, ou pas, ou...
Moi, j'ai pas du tout l'habitude de faire des films d'entretien, de brusquer vraiment les gens, etc. Mais pour moi, dans ce film-là, je me suis dit que si on faisait ce film-là, il fallait déjà savoir de ce dont on voulait parler et ce qu'on évitait de parler, parce qu'il y a des choses difficiles quand quelqu'un a fait 10 ans de prison pour meurtre. Bon, voilà, il y a des choses dont c'est pas la peine de parler pour pas le mettre dans la position à nouveau d'accusé face au spectateur. Mais par contre, je pense qu'il y a des choses dont on se doit... Enfin, moi, je me suis dit qu'il fallait le bousculer pour aller au bout du film, parce que sinon, ça ne servait à rien de faire un film juste pour relater comme ça une expérience sans aller au bout de certaines choses qui m'intéressaient. Et que le fait de le bousculer, je l'assumais tout à fait, parce que bon, déjà, on est des amis et que je le fais de façon bienveillante, même si ça peut être difficile pour lui. Et que c'était au bénéfice du film. Et donc pour moi, le film, tant qu'on est, on est bienveillant et qu'on le fait dans une bonne optique, enfin, je me permettais de le pousser, quitte à le mettre effectivement parfois un peu mal, quoi. Mais tant que la relation, notre relation, c'est une relation d'amitié, je peux me permettre ça, je pense que je peux me permettre ça. J'aurais pas osé sûrement avec quelqu'un que je connaissais pas, ou alors... Et là, oui, je pense que notre relation d'amitié, elle permet de brusquer un peu les choses, pour aller vraiment au fond, parce que le film nous apparaît important, quoi. Si on le fait, c'est quelque chose qui nous paraît important. Et voilà, donc...
Ça, c'était quelque chose qui avait été un peu discuté avec lui, que tu allais, ou pas plus que ça, ou lui, il le savait sans en discuter, que...
Je pense que lui, avant de commencer le film, il avait conscience qu'il allait être difficile pour lui d'évoquer certains sujets, comme par exemple le procès, parce que c'est douloureux et que donc il allait devoir se faire violence à certains moments. Il angoissait avant de tourner quand même. Le fait que je parfois le bouscule, je me souviens pas ou je sais plus si c'est quelque chose qu'il redoutait ou pas ou. Parce que moi aussi, j'ai changé, peut-être aussi un peu avant le tournage, un peu mon angle, quoi. Parce que j'ai réalisé progressivement que j'allais pas pouvoir faire exactement le film que je voulais. Et surtout, on avait fait une première tentative de tournage. Parce qu'il m'avait dit, oui, il commençait à angoisser pas mal. Et il m'avait dit, il va falloir faire un tournage, le faire vite, on va pas tourner sur des jours. Donc il me dit, on va le tourner une journée. Alors moi, j'étais prêt à tout accepter, je lui dis d'accord. Donc on avait fait un plan séquence ailleurs que là dans ce studio et chez moi et on avait tourné ça un plan séquence et je regarde les rushs et je me dis il y a pas du tout tout ce que je voudrais, enfin il manque plein de choses, quoi. Il manquait d'une force et surtout j'ai l'impression que le discours de Didier était une espèce de en roue libre un peu, mais qui avait pas du tout, que c'était pas incarné du tout sa parole. Donc je lui dis, ça va pas, quoi, Didier, il faut vraiment le faire. Et c'est à ce moment-là que je me dis, oui, il faut vraiment aller au fond des choses et de prendre plusieurs jours. Donc il savait que ça allait être quand même un peu difficile pour lui, puisqu'il avait essayé il essayait au départ de le faire rapidement, etc. Il savait qu'il allait devoir donner plus que ce qu'il voulait un peu au départ. Donc que ça allait être compliqué. Ouais. Et le tournage, il a duré, je pense, 5 jours. Et on avait prévu 6 ou 7, et finalement, à la fin du 5e jour, il m'a dit, bon, c'est fini. Bon, ce qui, finalement, était assez suffisant, mais moi, j'aurais bien aimé continuer, mais bon, vraiment, il ne pouvait plus, quoi.
D'accord. Et justement, là, tu parles de studio, et là, on entend dans ce premier plan séquence qui commence le film, on entend la question du dispositif. Et toi, tes deux précédents films qui étaient projetés hier au Vidéodrome, qui s'appellent, j'ai oublié le titre...
J'ai pas tué sa dame et l'empreinte.
Voilà, ils se situent dans un dispositif ou une forme qui est totalement différente, on va dire, qui, je saurais pas trop comment la définir, mais en tout cas, c'est une forme où tu interviens beaucoup moins...
Directement
dans la façon de faire le film, et tu exposes moins toi à la fois, tu t'exposes moins et aussi t'exposes moins aussi la question du film qui est en train de se faire. Ça, c'est venu assez rapidement qu'il allait être nécessaire de trouver une autre forme.
Le plan qu'on vient d'entendre là, qu'on a entendu au début là, on l'a tourné le dernier jour du tournage. Donc ça s'est construit au fur et à mesure, quoi. Je me suis dit, il faut aller plus loin. Dernier jour du tournage. Ça c'est le dernier, c'est un des derniers plans que j'ai mis au début du film. Et donc voilà, ça s'est construit au fur et à mesure du tournage. Mais de toute façon, pendant le tournage même, j'avais décidé de mettre à jour le dispositif, d'une façon ou d'une autre, de le mettre clairement visible, quoi, parce que pour tourner autour de cette question de la prise de parole, de la difficulté de parler, en tant qu'ancien taulard, quoi. Donc oui, c'était quand même une volonté dès le départ.
Dès le départ. Ouais. Parce que là, sur cette question du dispositif, on va dire, qui est un mot compliqué, mais je ne sais jamais lequel autre utiliser comme mot, on va dire, sur cette forme proposée, rapidement, on sent qu'il résiste à un endroit, et c'est assez étrange comment il résiste, parce qu'il résiste en disant que ma parole va venir, on va considérer que ma parole vient de quelqu'un qui joue, alors que je suis comme tous les autres êtres humains, je joue pas, quoi, et que tout le long du film, on a l'impression qu'il y a cette corde, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois, où à la fois c'est lui, à la fois il joue, puisqu'il est souvent à participer au clap au début du plan, et quand toi, là, à ce moment-là, t'essayes d'insister pour qu'il essaye d'évoquer un peu plus qu'est-ce qui pour lui est compliqué sur la question du dispositif. Est-ce que c'est ça que tu veux avoir quand il te dit oui, ben c'est la question, on va pas croire ma parole parce que je joue.
En tout cas, je savais que je sentais quand je commençais à filmer un petit peu le dispositif de façon assez claire, etc. Enfin, la présence, enfin le décor, comment se faisait le film, qu'il était parfois un peu réticent. Et quand j'ai commencé à le questionner un peu plus dessus, je voyais qu'il y avait une résistance, quoi, et qu'il y avait quelque chose qui le gênait. Donc, d'où l'idée de ce plan. Je me suis dit, bah, on va questionner directement là-dessus, ou c'est un plan en plongée où on voit vraiment il est dans le décor, et on voit le décor dans lequel on a tourné le film, et où il est un peu perdu là-dedans, et où je questionne vraiment sur le dispositif. Ouais, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui résistait, mais je savais pas exactement ce qu'il allait me dire, quoi. Je savais pas. Mais voilà, lui, il le dit très clairement, d'une belle façon. Je suis un acteur comme tous les hommes. Et je pense que d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a écourté un peu le tournage, parce qu'effectivement, ça, c'est le dernier jour du tournage qui n'était pas censé être le dernier jour. Et peut-être qu'il ne voulait pas aller plus loin encore là-dedans, parce qu'effectivement, cette question de la... Parce que oui, le film repose beaucoup sur le fait que moi, il me dit des choses autour de la prison, et que moi, j'aimerais bien lui faire dire autre chose aussi. Enfin, autre chose, des choses dont j'ai l'impression qu'il m'a dit avant, ou qu'il... ou des choses qui se cachent un peu, voilà, ou qui livrent d'autres choses. Et puis, il y a une espèce de combat comme ça. Et que, voilà, c'est difficile pour lui d'assumer certaines paroles, je pense. Et voilà, donc il y a peut-être qu'il... Au bout d'un moment, on était allé aussi loin qu'on pouvait, et qu'il ne pouvait pas aller plus loin sur cette question du dispositif et se dévoiler plus, remettre en question la parole qu'il me donne, même, voilà.
D'accord. Mais justement, là, sur cette question de... Où tu dévoiles le dispositif, la question que je me posais, c'est que quand tu dévoiles le dispositif, donc après, les auditeurs pourront voir le film, d'ailleurs, sur dérive.tv, en allant dans l'onglet Constellation, et il y a l'onglet Guillaume Bordier, et le film est consultable. Ce que le dispositif, là, on est en train de parler, que tu dévoiles le dispositif. En dévoilant le dispositif, c'est... On voit un studio... Et la caméra est en point de vue de haut. Et on ne peut pas s'empêcher, en tout cas moi je l'ai vu, puisqu'on voit rapidement que ça a parlé de la question de la prison, de penser à quelque chose d'une reconstitution comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui était conscient à ce moment-là, ou pas, de, quand tu dévoiles le dispositif, de dire, ah bah tiens, ça peut faire écho ou pas à ça?
À une cellule, tu veux dire?
Ouais.
À une prison? Moi, je ne l'ai pas pensé comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu cette impression. Moi, je ne l'ai pas pensé comme ça. En plus, on est arrivé dans ce décor, on s'est dit on va tourner en studio, et il se trouve que c'était ce décor-là qui était... entre autres, d'ailleurs, c'est le décor d'une séquence de Mulholland Drive pour un exercice d'école qui refaisait une séquence à l'identique. Mais bon, ça, peu importe. Et bon, effectivement, c'est une pièce comme ça qui peut ressembler à, enfin, à un tribunal. Voilà. Mais en tout cas, il y avait sur cette séquence-là et ce point de vue en plongée où il est très loin, il y avait quand même l'envie de... Enfin, c'est un peu un point de vue divin, c'est-à-dire que c'est le cinéaste qui est tout puissant, voilà, se permet de filmer, enfin, permet de filmer Didier et de le mettre vraiment assez mal, quoi. C'est sûr. Enfin, et c'est essayer de montrer le pouvoir même de la caméra, enfin, ce que cette cette prise de pouvoir, quoi, ce rapport de pouvoir qui est en jeu là-dedans dans ce film. Donc au moins, je me dis, bah, allons-y carrément, quoi, que ce soit vraiment clair. Quoi.
Donc c'est à la fois, tu dis que c'est dévoiler le dispositif, mais ça va finalement au-delà de ça, de la question de dévoiler le dispositif, c'est aussi dévoiler le rapport de pouvoir que tout cinéaste a quand il commence à filmer quelqu'un, quelque chose. Il y a tout de suite un rapport de pouvoir, donc c'est dévoiler aussi la puissance du cinéma et son rapport de pouvoir, quoi.
Oui.
Mais et c'est intéressant parce que finalement tu dévoiles. Ouais.
Oui, juste une chose sur ce rapport de pouvoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que Didier faisait aussi des films et était très cinéphile. Et du coup, il a tout à fait conscience de ce rapport-là. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est possible de le bousculer là-dessus et de jouer avec ce rapport-là. Parce que je ne bouscule pas quelqu'un qui ne connaît pas le cinéma. Voilà, il sait très bien ce que c'est le cinéma, il sait très bien ce que c'est que se faire filmer. Et donc voilà, je peux aller loin avec ça. Donc, voilà.
Oui, et puis c'est ce qu'on sent en tant que spectateur, c'est qu'à la fois, ce point de vue d'omniscient, de Dieu, il pourrait nous être violent dès qu'on le regarde, et rapidement, en fait, on voit que celui qui est filmé, où on pourrait dire c'est un fauve dans une cage, on voit que rapidement, il arrive à réinverser cet rapport de pouvoir et qu'il garde sa souveraineté, quoi. Et c'est assez beau, quoi, parce que finalement, il le dit tout au début, mais il le dit pas par rapport au dispositif. Mais moi, c'est quand je vois le dispositif, c'est ce que je retiens. C'est-à-dire qu'au début, il dit « Tu veux le filmer dans son appartement ?» Et lui, il dit « Non, parce que mon appartement, elle est bordélique. Et j'ai envie qu'on voit un homme debout. » Et ça, c'est tout au début. Et puis, en fait, quand t'es là à dévoiler le dispositif et on voit ce rapport de pouvoir du cinéma, ben, on continue à voir un homme debout, même si on le voit de haut, quoi. Il y a quelque chose qui, à cet endroit-là, est très, très puissant, quoi.
Oui, oui. Enfin, je sais pas ce que je peux rajouter là-dessus, mais oui, voilà.
Ouais. Non, mais en tout cas, oui, comme tu dis, la question que qui l'ait fait des films et tout ça, ça a été quelque chose que t'as pris vraiment en compte et qui est au centre de tout le film, quoi.
Oui, 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 complètement. Oui, il y a cette relation parce que notre relation, elle vient aussi de là, quoi, de ce partage des films, du cinéma, donc. Voilà, donc ça a apporté beaucoup à notre film aussi, quoi. Oui, je peux le bousculer, parce que cette relation d'amitié, cette conscience du cinéma qu'il a, quoi.
Donc, c'est possible. Oui, voilà, et ça fait que nous, on accepte aussi d'être bousculé, quoi. Tu disais tout à l'heure que c'était un film sur la parole, et je voulais te poser la question, est-ce que tu avais vu... des films sur la parole, par exemple, comme le film très connu, mais très peu diffusé, de Numéro Zéro, de Jean Eustache.
Oui, oui. Moi, j'avais clairement trois films en tête en faisant celui-là. Parce que parfois, on a comme ça des influences, mais on ne sait pas, un peu diffuses. Bon, là, c'était très clair dans ma tête. Il y avait Numéro Zéro de Eustache. Il y avait Portrait of Jason de Shirley Clarke. Et il y avait Feng Ming de Wang Bing. Qui sont, voilà, trois films avec des longs plans séquences... et de portraits de gens ou de récits très très longs et très avec des plans fixes, quoi. Donc ouais, j'avais vraiment ça en tête, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup nourri, quoi.
Et tu les as eu rapidement en tête en le rencontrant, comment ça s'est agencé, cette mise en connexion entre ces films et puis cette rencontre et ce désir de cinéma?
Non, c'est des films que j'ai vus après avoir rencontré Didier, donc au cours de ces années-là où je savais que j'allais faire un film avec Didier, mais sans savoir comment, sous quelle forme. Et petit à petit, sûrement... Alors, je sais pas si après avoir vu chacun de ces films, j'ai pensé directement à filmer Didier, quoi. Mais en tout cas, ça a nourri le processus de réflexion autour de ce film-là, c'est sûr. Enfin, je me suis dit... je pense que c'est quand j'ai compris que c'était la parole de Didier que je voulais filmer... Voilà, j'ai pensé à ces films-là.
T'as fait la connexion à ce moment-là, quoi. Et c'est intéressant parce que... Bon, je me permets de faire une petite digression. C'est-à-dire qu'en fait, Toi, tes films, déjà, ce qui est important de savoir, c'est que c'est des films qui n'ont pas de production. C'est-à-dire que c'est des autos, tu les finances grâce à ton système économique d'un travail à côté, quoi. Et je ne sais pas si tu avais lu, Danet accorde beaucoup d'importance à ces films-là. Serge Danet, un critique de cinéma très intéressant, parce qu'il trouve, et ça me fait penser à toi, quoi. Alors après, je vais peut-être m'égarer, mais tu me rattraperas. C'est-à-dire qu'il dit que pour lui, filmer la parole, il parle de Stache, entre autres, pour lui, c'est ce qu'il y a de plus puissant au cinéma. Il est là, il dit que c'est parce que filmer quelqu'un qui est en train de parler simplement, c'est la chose la plus puissante. Et il raconte que bah, dans l'enfance, on a tous été baignés au-delà de la question de la culture, on nous racontait des histoires et que ça, c'est une mémoire qui fait que quand on regarde quelqu'un qui nous raconte une histoire, on a besoin de rien d'autre, quoi. Et il explique, et la personne qui lui fait l'interview lui dit, mais comment ça se fait qu'on ne voit pas plus de films comme ça? Et Danet, il explique à ce moment-là, et ça me fait penser à toi dans ton système de non-financement pour faire ce film, il explique que si les cinéastes faisaient plus de films comme ça serait la fin de l'industrie, quoi. Parce que ces films peuvent être faits sans tout l'attirail du cinéma, c'est-à-dire la recherche de production, une équipe énorme, patati patata, quoi. Et ça me fait penser au lien avec ce cinéma que tu fais là, dans ce film-là, quoi.
Oui, alors après, je ne saurais pas te dire exactement, mais en tout cas, j'ai l'impression que moi, les films que je fais, ils sont forcément, inconsciemment, j'ai forcément en tête le fait que de toute façon, je n'ai pas d'argent et que je ne vais pas aller faire des films très coûteux. Donc, tout ça, c'est me travaille de façon inconsciente, quoi. Je ne sais pas comment ça se met en place, mais je ne me suis pas dit, je vais faire un film de parole parce que. Enfin, ça a été naturel dans le processus,
Ouais.
mais oui, sûrement.
Ouais,
Enfin,
c'était une petite digression
oui,
que je
voilà.
me permettais, que je trouvais en tout cas intéressante, que faites des films de parole.
En même temps, la télé est pleine d'entretiens aussi, pleine
Oui,
d'entretiens, d'interviews.
mais il y a la différence où la télé ne laisse pas la. Je pense que quand on dit film de parole, c'est-à-dire c'est où la parole prend le temps de se déployer. C'est ce
Oui.
qu'on voit dans ton film où tu n'as pas de problème, et Didier non plus n'a pas de problème avec la question des silences.
Oui, bah, c'est là où se joue plein de choses, en fait, dans les silences, là, dans ce film-là, où il y a tout d'un coup une parole qui s'arrête, et puis un moment où on comprend qu'il y a un doute, ou ouais, enfin, oui, les silences, c'était. Et puis en même temps, comme en tant que cinéaste dans ce film-là, il y a un moment où toujours la question de savoir jusqu'où tu fais durer le silence pour pas que ce soit complaisant. Qu'il faut rebondir aussi. Enfin oui, ça c'est sûr que c'est une question intéressante ouais, dans le film.
Ouais, et puis qui va complètement à l'encontre de la télé dont on parlait juste avant, où finalement la question des silences qui nous permettent, nous, à spectateurs, de soit de voir le doute de celui qui est filmé, ou alors de voir le doute de celui qui filme, ben dans la télévision, ça, on n'y a pas du tout accès, quoi. Mais pour revenir sur la question de la production et continuer un peu une petite digression, pour toi, est-ce que tu dis que c'est quelque chose de conscient, d'inconscient? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu fais le choix, ou c'est même pas une question de choix, de pas tenter de produire tes films, même si je sais que c'est une question délicate pour toi, mais j'ai quand même envie d'appuyer là où ça fait un peu mal.
Non, ça fait pas mal, mais c'est juste. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Peut-être d'abord une grande flemme à écrire des dossiers. Enfin, c'est plus que de la flemme, mais déjà, enfin, faire des démarches de production, il faut écrire des dossiers. Et moi, j'ai l'impression que, mais il y aurait sûrement une façon de le faire autrement, mais que ça va. Quand on fait des documentaires et qu'on travaille sur. Enfin, c'est toujours la question du désir, quoi, de ce qu'on va filmer. Et surtout, moi, quand je fais un film. Quand je commence à tourner, j'ai pas trop d'idées de ce qui va se passer. Je mets en place quelque chose pour qu'il se passe quelque chose au moment où je tourne. Et d'écrire un dossier en amont où j'explique ce que je vais faire, alors que je sais pas exactement ce que je vais faire, etc. J'ai l'impression que le film, c'est plus la peine de le faire. Donc déjà, voilà, j'ai pas envie de le faire. Et sinon, il y aurait aussi la possibilité d'écrire le dossier une fois le tournage terminé. Mais une fois le tournage terminé, j'ai qu'une envie, c'est de faire le montage. Et une fois que le montage est fait, et que le film est terminé, j'ai qu'une envie, c'est de passer à autre chose. Donc voilà, il y a ça. Après, il y a aussi le. Enfin, c'est complexe, je pense. Enfin, si on me donnait de l'argent pour faire un film, je le prendrais sans problème. Il n'y a pas de question de problème moral, mais. Y a la question du fait que je pense que j'ai pas envie d'en faire un métier, quoi. J'ai pas envie que ce soit une façon de gagner ma vie et que je sois obligé de faire un film pour avoir de l'argent, pour gagner de l'argent. Donc je pense que ça, c'est quelque chose délicat. Après, moi, chaque nouveau film, je me dis, bon, celui-là, je vais faire un dossier, celui-là, je vais le produire. Et puis finalement, je me dis, bon, le prochain, en fait. Donc je sais pas, c'est irrésolu.
Mais en tout cas, c'est important ce que tu, en tout cas dans ce que tu dis, moi, ce que je retiens, c'est la question du désir, et je pense qu'elle est très juste. Et voilà, sans vouloir donner de conseils, mais aux personnes qui commencent à faire des films, il y a une tendance avec beaucoup d'écoles et de masters, et que moi je trouve ça assez délicat, et que les jeunes, dès qu'ils ont envie de faire des films, ils se mettent à écrire des dossiers, et je trouve que c'est très délicat. Encore plus, comme tu dis, dans le cinéma documentaire, parce que c'est clair que ça affecte d'une manière ou d'une autre la question du désir, et ça affecte d'une manière ou d'une autre la question du film qu'on est en train de faire, quoi. Et que c'est vrai qu'à cet endroit-là, faut faire attention, quoi. Alors, on vous propose une petite page musicale, et puis après, on revient sur le film. On va écouter Azab Yadounia, un peu de mélancolie.
Hey.
C'était Azeb Yadounia. C'est une musique que j'ai découvert dans un film d'un cinéaste tunisien, Saadi Djilani, dans son dernier film Bidoun 3, que si vous pouvez le trouver, je vous conseille de le voir, c'est très très beau. On est avec Guillaume Bordier, en quête de cinéma, sur Radio Galère 88.4, dérive.tv, c'est le matin à Marseille. Il pleut. Et là, avant de reprendre l'échange avec Guillaume, on va vous faire écouter un autre extrait du film qui s'intéresse et que je trouve intéressant sur la question de la prison, de sa réalité, de sa représentation et de comment Didier, le personnage que filme Guillaume, nous évoque différentes manières de la percevoir et pour pouvoir parler autour de ça. Donc on écoute cet extrait et ensuite on se retrouve.
C'est pas la punition qui t'a fait comprendre quoi que ce soit. C'est le fait de t'avoir enlevé à...
Est-ce que l'élan premier de la prison est de punir? Je crois que c'est de contrôler. C'est pas de punir. Arrêter quelqu'un, c'est pour qu'il arrête ça, pour pas qu'il continue. C'est l'élan premier, c'est ça? Mettre quelqu'un, l'enfermer. C'est pour qu'il arrête de nuire. Et se nuire aussi, par la même occasion, mais... Parce qu'il y a un danger pour l'ordre public, c'est ça, tout de suite. C'est empêcher de nuire. C'est pas l'idée de punir, tout de suite. C'est d'empêcher un trouble. Qu'un trouble perdure, continue. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui fait que la prison existe. C'est pas... Après, bon, évidemment, sur le long terme, maintenant, il y a des aménagements qui ont été faits pour rendre la prison plus supportable. Mais l'élan premier d'enfermer quelqu'un, c'est pour arrêter tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu es conscient qu'il fallait que ça s'arrête, tu ne vis pas la prison comme une punition.
Oui, mais toi, tu l'as quand même vécu comme une punition.
Parce que je trouvais exagéré le. J'ai trouvé exagéré la durée de la peine. Être condamné à 20 ans pour ça, comme un.
Et tu as été condamné à 20 ans pour ce que tu étais. Pas que pour ce que tu avais fait en grande partie.
On est d'accord, on peut en parler, si tu veux. Tu as lu les coupures de presse, là, tout à l'heure. Je vais te les montrer exprès. Pour que tu comprennes bien ça. Je ne les ai jamais montrées depuis que je te connais. Ça fait 6-7 ans, je crois, qu'on se connaît. Je les ai montrées à l'instant, là, il y a quelques heures. Il y a effectivement cette dimension là qui m'a rendu vraiment haineux, oui, mais je revanchard à un certain moment, c'est vrai. Maintenant, je ne suis pas resté dans cette haine, j'ai essayé de positiver et de voir le bon côté de ce que ça m'avait apporté. C'est-à-dire. De ne pas continuer de cette manière-là, la vie que j'avais, et de repartir sur une nouvelle base. C'est ce que j'ai fait. Je ne dis pas que c'est une réussite à 100%, mais c'est pas comparable à ce que j'étais avant. Donc, je sais que ça peut être dérangeant d'entendre ça, pour quelqu'un qui tient à maintenir l'idée de prison comme quelque chose d'haïssable. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais que ça peut te déranger, ce genre de propos. Mais tant pis.
Donc voilà, c'était l'extrait Le Reflux du film de Guillaume Bordier. Alors Guillaume, tout le long du film, moi, j'ai l'impression que la... C'est évoqué dès le départ. Tu dis dès le départ à Didier que comment il t'a parlé de la prison avant de faire le film ou il y a quelques années. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à comment il t'en parle. Et à cet endroit-là, il y a déjà une résistance un peu de sa part. Et à cet endroit-là, il y a aussi une insistance de ta part qui, j'ai l'impression, va traverser un peu tout le film.
Oui, c'est tout le temps une lutte dans le film entre lui, ce qu'il me raconte, et moi, ce que j'aimerais lui entendre, enfin lui faire dire, parce que il me semble lui avoir entendu tenir des propos plus durs, plus durs sur la prison ou sur les institutions, etc., et qu'il lui, alors que dans le film, il présente quand même la prison sous un jour plutôt positif, en tout cas ce qu'il en a retenu souvent de positif. Et moi, j'essaye de tirer sur les côtés que je trouve... Enfin, parce que je sais ce que la prison a... Enfin, les traces que la prison a pu laisser chez lui, enfin, certaines dont il me parle ou que je vois au quotidien, et qu'il essaye... Il les cache un peu, quoi, dans le film, quand on parle. Donc, voilà, il y a une petite lutte entre nous deux là-dessus, ouais.
Et qui revient régulièrement, parce que vous la laissez, vous revenez dessus... Et en fait, ce qu'on a l'impression de sentir derrière, oui, c'est comme tu vois, comme tu l'évoques toi, c'est-à-dire qu'il y a, moi, ce que ça m'a évoqué, c'est qu'à un endroit, il y a toute la complexité entre, c'est comme ça que je la perçois, entre une vision politique de ce qu'est la prison, et puis de se retrouver devant un individu qui est à la fois habité de cette position politique, mais que dans une certaine réalité, c'est une position individuelle qui l'exprime, quoi. Je ressens ça, quoi, un peu.
Oui, c'est ça, c'est la différence. Lui, il l'a vécu pendant 10 ans. Enfin, il y a toute une expérience et beaucoup de raisons pour lesquelles c'est difficile de présenter la prison d'une façon politique et seulement négative. Parce que quand tu as passé 10 ans là-dedans pour un crime de droit commun, si tu n'as pas accepté les raisons de ton enfermement, c'est un enfer absolu. Et si tu n'essayes pas d'en faire quelque chose d'un peu positif, c'est un enfer. D'ailleurs, il le dit dans le film, il dit « sinon, ça servirait vraiment à rien ». Donc, pour que ça ne serve pas vraiment à rien, il faut aussi essayer d'en faire quelque chose de constructif, quoi. Donc, d'où la difficulté, je pense, une des difficultés pour lui de présenter la prison sous un jour négatif. Et je pense qu'il y en a une deuxième aussi, c'est que quand Didier a été condamné pour meurtre à 20 ans de prison, et quand tu as été condamné pour meurtre et qu'ensuite tu parles de la prison, tu es quand même dans une position très délicate d'arriver à sortir d'une position de culpabilité. vis-à-vis du spectateur ou des gens qui vont te regarder, ou de mettre de côté cette condamnation pour parler juste de la prison, il me semble que c'est quasiment impossible si c'est pas un détenu politique, voilà. Et, enfin, ça le met dans une position où il a forcément l'impression d'être un peu rejugé et donc d'être obligé de ne pas il est obligé d'accepter cette peine, quoi, d'accepter ce qu'il a, enfin, cette prison, etc. Il me semble, quoi, que c'est ouais. vraiment une des raisons pour lesquelles, dans le film, il ne veut pas trop lâcher sur la prison, quoi. Mais pourtant, il y a un passage dans le film, à un moment, où je ne tourne pas. Enfin, on entend au son qu'il commence à parler de la prison, et je lui dis, attends, j'allume la caméra. Et là, il est un peu hors éclairage, je n'ai pas eu le temps d'allumer toutes les lumières. Et il parle vraiment du processus, qu'est-ce que c'est, pourquoi le procès est si dur, la façon de tenir les procès se fait de cette façon-là, et que c'est comme il dit, des veaux à l'abattoir, et qui permet à la société une revirginisation pour pouvoir éloigner le mal d'elle, et de le mettre sur ces taulards, etc. Donc il tient des propos quand même très forts, et c'est des propos qui sont hors film quasiment, puisque j'ai même pas eu le temps au départ d'allumer la caméra, et c'était entre deux plans, quoi, qui me tient ses propos. Et c'est des choses que j'avais envie de lui faire dire pendant le film, quoi, et qui tient quasiment hors film, quoi.
Ouais, et puis d'ailleurs, c'est intéressant que t'aies laissé le plan comme ça et que tu l'aies laissé à l'ombre, parce que nous, on vit quelque chose, on sent qu'il y a un décrochage à cet endroit-là, que ce décrochage, c'est le moment où il évoque les choses qui sont l'évidence de ce qu'est la prison, c'est-à-dire que bah, il y a des comportements qui sont bons pour la société, et les comportements qui sont pas bons pour la société, bah, on les met en tôle pour les redresser, et qu'il évoque ça au moment où il est dans l'ombre, et c'est quelque chose d'assez beau, parce qu'à la fois, ça, c'est comme si ça le protégeait, et puis ça nous protégeait, nous aussi, pour pouvoir entendre cette chose dure sans le mettre en jeu, lui, quoi. Parce qu'on sent, comme tu dis, sur la question d'être jugé, on sent qu'en lui, ce qui a été le plus douloureux, c'est chaque fois le procès où il a été jugé, et qu'à cet endroit-là, c'est comme si... Il le dit, quoi, qu'il y avait une blessure qui était... qui ne pouvait pas se réparer, et qui fait que, même 10 ans après, il ne pensait pas que ses rêves allaient être habités de la prison, quoi.
Oui, c'est sûr que... Enfin, les traces... Pour moi, les traces de la prison chez Didier sont très fortes et très quotidiennes, quoi, parce que il en parle beaucoup, et il a beaucoup d'angoisses qui sont dues à ça directement. Et effectivement, et c'était quelque chose de l'entendre parler de la prison comme si c'était un peu éloigné, même si voilà, il dit à un moment, il dit qu'il en rêve tout le temps et qu'il comprend pas pourquoi il continue à en rêver. Donc là, on sent qu'il y a quand même quelque chose, malgré sa résistance, qui est quand même encore très présent. Mais il faut quand même beaucoup travailler dans le film pour pouvoir qu'il puisse parler, enfin délivrer, livrer un peu ce genre de trauma, quoi.
Mais c'est plutôt aussi intéressant, je me dis, que finalement que toi ou lui, vous n'ayez pas été à cet endroit de la prison comme institution carcérale, et qui nous, dès qu'on pense à la prison, on pense à Foucault. Finalement, c'est intéressant que vous n'ayez pas été là, parce que je me dis que si à un moment vous aviez été là, bah on serait parti ailleurs, on aurait plus été dans quelque chose qui est un cinéma militant ou qui dénonce, et que ça aurait peut-être fait un décrochage, que ça se trouve tu n'aurais pas pu, tu aurais carrément été obligé d'enlever dans le montage, quoi. Là ça nous laisse de l'espace, et on reste dans quelque chose qui est la poésie de ce qu'est ce monsieur, quoi.
Oui, et puis ça met en tant que cinéaste, à ce moment-là, ça t'oblige à aussi écouter la parole de l'autre, parce que ça va pas dans ton sens. C'est quand même, c'est un portrait. Le film, c'est un film autour de Didier, donc cette parole, elle a une valeur forte. Et enfin, c'est cette parole que je veux filmer. Il faut aussi l'entendre, même si elle va, si elle peut heurter, choquer. Parfois, moi personnellement, il y a des moments où je me dis, ah, pas ça. Ils disent ça parce qu'en fait, il ne peut pas dire autre chose, etc. Ou j'essaye de la justifier autrement, mais en fait, il faut quand même l'écouter. Et au montage, il était un peu assez facile, aurait été assez facile à certains moments d'aller un peu encore plus dans mon sens. Le montage du film, il est comme le film est composé de plans-séquences d'une quinzaine de minutes ou d'une douzaine de minutes. Il était chronologique, quoi. On a posé les plans les uns après les autres quasiment. Et sur le dernier plan, il tient des propos assez noirs, en fait, sur les traces de la prison chez lui, puisqu'il dit qu'il y pense tous les soirs, à la tombée du soleil, il a des angoisses qui remontent à cause de la prison, qu'il y pense le dimanche. Donc je lui dis, en fait, c'est tous les jours. Et puis il dit non, oui. Enfin, finalement, on comprend que c'est quand même très présent. Et puis à la fin, moi, j'ai coupé à ce moment-là. Voilà, on comprend que voilà, il y a quelque chose de présent. Mais en fait, le plan continuait et puis tenait des propos encore plus noirs, et voilà, ça devenait vraiment dur. Et je me suis dit, bon, si je finis le film là-dessus, alors que tout le film est un combat entre nous sur sa position à lui, la mienne, etc., je me suis dit, c'est un peu facile d'arriver que le filmeur qui maîtrise le film et qui fait vraiment dire ce qu'il veut, finalement, à la fin. Donc je me suis dit, il faut rester sur quelque chose d'un petit peu... trouble et pas forcément, oui, une parole quand même qui fluctue. Voilà, c'est toujours cette position délicate, quoi, entre quand on fait le film, quoi, de se placer au-dessus, quoi. Ouais.
Oui, et puis c'est intéressant que tu aies réussi à la tenir, parce que sinon, le plan que tu mets au départ, ce plan omniscient qui à la fois peut nous faire peur et puis à la fois nous rassure parce qu'on le voit debout, bah, si tu avais été à ces endroits-là et que tu avais terminé le film comme ça, bah, je pense qu'on serait revenu à ce plan omniscient et on n'aurait pas vu. Un homme debout. Et ce qui est beau dans ce film, c'est que tout le long du film, au-delà du combat et tout, on voit d'une part un homme debout, quelqu'un qui est beau. On voit aussi un cinéaste qui prend le parti pris d'écouter et de garder une position humble et d'aller au-delà de ses idéologies ou de ses positions politiques en disant, mais une parole, à partir du moment où elle est dite et qu'elle vient de quelqu'un, ben... elle est écoutée, elle a une valeur, quoi. Et que ça, c'est quelque chose qui est assez rare, quoi, parce que, ouais, des fois, les paroles, non, elle vient de quelqu'un, cette parole, donc elle a le droit d'exister, on a le droit de l'écouter, quoi. Et ça, j'imagine que pour toi, ça a dû être aussi une sorte d'épreuve, mais une belle leçon de ça, quoi.
Oui, et puis aussi, faut dire que Didier parle particulièrement bien, alors que moi, je suis plein d'hésitation, de confusion, et donc ce qui permet de rebalancer un petit peu le rapport, quoi, puisque moi, voilà, je maîtrise avec la caméra, etc. Lui, dans une position voilà, très inconfortable, et en même temps, il parle beaucoup mieux que moi, donc finalement, voilà, il y a quelque chose d'un peu voilà, qui est contrebalancé par sa faculté de parole, quoi.
Oui, c'est clair que sa faculté de parole, elle est fabuleuse. Et puis c'est vrai que toi, on sent que tu as une parole, mais que tu l'utilises avec parcimonie, ce qui est beau, parce que c'est ta position de cinéaste qui est beau de l'utiliser avec parcimonie. Puis aussi, on sent que tu n'as pas la même, comme tu dis, la même qualité de parole et qu'on est entre les deux. Mais cet entre-deux, quand on est avec toi, est très intéressant. Mais c'est vrai que sa parole, elle est... Moi, je sais que c'est une vraie leçon de vie et puis aussi de cinéma que nous est offerte en regardant ce film, parce qu'il y a des moments de parole. Moi, je sais que quand il parle de comment il s'est nourri de romans qui, en fait, l'ont complètement, d'une certaine manière, traumatisé en citant Sioran, et c'est vrai que lire Sioran quand t'as 14-15 ans, j'imagine, moi, c'est quelque chose que je n'avais jamais pensé, la puissance de ce qu'on lit ou de ce qu'on regarde à l'âge qu'on a, quoi. C'est complètement hallucinant, quoi, ça.
Ouais, ouais. Il parlait de Sioran. Il parle dans le film de Sioran, il parlait aussi beaucoup de Tchekhov. Mais c'est vrai que, oui, il était... enfin, il le dit, de la façon dont il était habité par ses lectures, et surtout, de ne pas pouvoir les partager, parce qu'il était dans un milieu où les gens ne lisaient pas. Et je pense qu'il était très isolé, peu d'amis. Et donc voilà, il était seul dans ses lectures à ne pas pouvoir les partager. Ouais. Ouais. Oui, ça, il en parle très bien. Ouais. C'est vrai que j'avais rarement entendu quelqu'un qui parlait de la lecture de cette façon-là.
Ouais. Ouais. Et puis comment le cinéma peut nous habiter aussi fortement. Et c'est quelque chose, moi, ça m'a fait du bien de l'entendre par rapport à mon enfance, comme un retour à l'enfance, disant, bah, tiens, qu'est-ce qui m'a construit comme j'étais enfant. Et puis ça m'a fait du bien aussi... de l'entendre, mais à la fois ça fait peur en disant, ah ouais, ça, la question de la création artistique a une aussi grande puissance, si on n'est pas outillé pour dialoguer avec, ça peut complètement nous hanter, quoi, parce que je crois qu'il, je sais pas s'il utilise ce mot là ou il utilise des mots forts pour raconter ça, quoi.
Oui, il dit qu'il était, enfin, qu'on peut lire, on peut lire aveuglément, et que ça, il dit à un moment, j'ai été, je veux pas dire, qu'est-ce que moi il le dit ? Moi, je sais plus, il utilise un mot très fort. pour oui dire ce que oui, c'est, j'avais fait de mauvaises lectures, ouais, en tout cas de mauvaises lectures à l'âge que j'avais, ouais. Donc enfin c'est assez fort, ouais, ce qu'il raconte, enfin ce qu'il en dit de ces lectures là à cet âge là mais faut, après c'est des écrivains qui continuent à lire,
oui voilà, ouais, c'est ce qu'il raconte, quoi. Et moi, je voulais aussi juste revenir un peu, parce qu'on va arriver un peu vers la fin de l'émission, mais il y a encore deux, trois trucs que je voulais évoquer avec toi, qui sont plus des pensées. C'est que, donc, à la fin du film, on sort de ce dispositif et on suit Didier et on arrive à une voie de chemin de fer. Et là, la caméra hésite à partir avec le train et finalement, on part pas avec le train. La caméra... revient sur Didier.
Mais en fait, le train était très court. Et déjà, c'était... donc, je le filme dans la rue. Et effectivement, le train passe, mais ce n'était pas prévu. Et donc, Didier attend, comme ça, devant les barrières. Et donc, le train passe. Je me dis, ah, bah, je ne vais pas noter. Mais sauf que je commence à pas noter. Je m'aperçois que le train n'a que deux wagons et qu'il va falloir que je revienne tout de suite sur Didier. Donc, je reviens sur Didier. Et voilà.
Ouais, mais ce que je trouve que moi, en tant que spectateur, à la fois, j'ai trouvé ça que c'était... moi, ça m'a plu, quoi. À un moment, je suis là, je me dis, bah, tiens, super, je pars avec le train. Et puis, finalement, je reviens avec Didier. Puis, je suis là, je me dis, ah bah non, finalement, je préfère rester avec Didier, quoi. Et ce film, il a tourné, il a eu une histoire. Et comment ça s'est passé, les différentes projections que tu as vécues? Tu peux nous évoquer différentes...
Il a circulé dans des festivals ou dans des assos, à droite à gauche. Les projections, c'est très variable. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des réceptions très variables, en tout cas au niveau du discours de Didier, que parfois je suis très surpris par le côté très positif qui est évoqué la prison dans le film et qui est pris par certaines personnes sans recul, quoi, ou enfin qui enfin, tel qu'il est, comme si notre petite lutte interne dans le tournage n'avait pas eu lieu, quoi. Et que, donc, je suis souvent surpris de ça.
C'est-à-dire que c'est pris au premier degré, alors.
Ouais. Bah, enfin, pas systématiquement, mais ça arrive souvent. Et, mais sinon, ce que je trouve...
Mais juste pour rester sur cet angle-là, toi, ça te raconte quoi? Ou qu'est-ce que tu t'es raconté de ces retours qui prennent la question de la prison au premier degré? C'est-à-dire, grosso modo, qui sont un peu choqués, entre guillemets, de cette approche positive qui, finalement, pour moi, n'est pas ce que je vois dans le film. Mais,
C'est pas forcément choqué, c'est parfois emballé.
Ah oui, c'est choqué.
Non, mais comme si c'était... Ah, finalement, effectivement, ça peut être aussi ça, la prison. Donc, je sais pas très bien quoi en faire. Non, mais moi, je me dis que c'est plutôt ne pas vouloir entendre, quoi. C'est, enfin, que parfois, enfin, je sais pas. On arrive tous avec nos idées toutes faites autour d'un tel sujet, quoi. Mais donc, je sais pas. J'ai l'impression que les choses sont quand même assez claires dans le film. Beaucoup de choses claires sur la question de la parole et de la difficulté à l'apprendre. Le discours, et que bon, il me semble que c'est parfois difficile de rester attentif, je sais pas, quelques détails du film qui montrent que les choses sont pas aussi évidentes, quoi, je sais pas, je suis un peu surpris. Mais...
Oui, comme c'est-à-dire, grosso modo, comme si les gens ne voyaient pas, ou alors n'avaient pas envie de voir quelque chose qui était de l'ordre de quelque chose qui est plus complexe, quoi, ouais. Sur ce qui est... Parce qu'au-delà de... Tu vois, toi, tu parles sur notre relation de un peu de lutte sur cette question de la prison, même si à la rigueur, on la voit pas. En tout cas, Didier, c'est pas clair comment il parle de la prison, quoi. Il l'évoque quelque chose de positif, puis des fois, il en dit des trucs super durs, et c'est ça qui nous permet à nous de circuler en disant, bon, ben, la prison, ouais, c'est tordu, quoi, parce que oui, à mort les prisons, ça c'est beaucoup, on est beaucoup d'accord là-dessus, mais bon, en tout cas, il y a quelque chose qui permet de mettre en débat, quoi.
Oui, oui, oui. Non, mais après, quand même, la plupart du temps, c'est bien reçu de cette façon-là. Enfin, en tout cas, de complexifier le sujet. En tout cas, moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'est qu'au début du film, je raconte à Didier que je voulais faire un film pamphlétaire. Mais effectivement, comme tu disais, de toute façon, si on avait été dans cette voie-là, on n'aurait pas pu tenir. Et puis, de toute façon, rien que d'un point de vue strictement philosophie politique, je ne sais pas jusqu'où on aurait pu aller. Voilà, je pense que je n'étais pas, de toute façon, à la bonne place pour faire ça. Donc, c'est bien de rester sur quelque chose de très... à la hauteur de la parole de Didier, une expérience personnelle, quoi.
Ouais, ouais. D'accord. Bon, on arrive vers la fin, mais moi je me disais que tu pouvais nous parler de maintenant. Qu'est-ce que depuis tu as fait depuis ce que ça date de 2012? Quels ont
2013,
été
ouais.
2013? Tu as fait d'autres films? Tu es sûr? Si tu peux nous parler un peu du présent?
J'ai fait un autre film autour de musiciens dans un studio, encore un film de studio, mais dans un studio de musique quoi, qui enregistre un album. Et là où il y a aussi un peu une question de dispositif, puisque un des personnages principaux du film est la preneuse de son du film. Voilà. Et le film que je suis en train de tourner en ce moment.
Ce film, il a eu un petit peu. T'as pu le faire tourner un peu ou...
Là, il tourne un petit peu, il était au réel, mais bon, il tourne pas beaucoup. Mais bon, c'est souvent comme ça. Hein. Enfin, j'ai l'impression que ça met beaucoup de temps, et finalement, il continue à tourner quelques années après les films et à vivre en fait, même si c'est pas des centaines de diffusions, c'est des diffusions au long cours, quoi. Donc ça, c'est assez
Donc
agréable.
ils ont une histoire et à quel moment toi tu te sépares du film?
Après quelques projections, je pense, après l'avoir montré 2, 3 fois, j'ai l'impression que c'est plus du tout la même relation. Tu arrives à entendre beaucoup, à le voir un peu autrement, le film. Après, je peux l'accompagner encore 10 ans après, si on me demande. Mais effectivement, c'est plus la même relation aussi à fleur de peau, quoi, qu'on a avec un film qu'on vient de terminer, où c'est très délicat, où on est un peu. Plein de doutes, donc après quelques projections, j'ai l'impression que le film il est déjà un peu plus loin de moi.
Et donc là, tu disais que tu étais sur une autre histoire de cinéma.
Ouais. Et là, je suis en train de tourner, enfin, je termine le tournage d'un film avec un jeune garçon dont je m'occupe régulièrement qui est autiste. Et donc voilà, ça se passe que à l'extérieur, contrairement à mes films précédents où c'est tout le temps des huis clos. Et donc là, c'est des promenades enfin, à l'extérieur, quoi. Et donc voilà, c'est avec lui, quoi, tous les deux dans la nature.
Ce qui est particulier, au-delà d'en dire des choses sur le film, c'est que c'est aussi un film qui se situe à l'endroit de ton travail, de ton travail qui te permet de vivre.
Oui, j'ai réussi. Ça fait, oui, quelques années que je travaille dans cette association-là régulièrement, et donc je me suis dit que j'allais faire un film au sein de l'association, comme ça je couplais les deux. C'est un système économique qui est pas mal, je trouve, pour le moment. Bah, je ne vais pas pouvoir faire ça longtemps, mais peut-être, ou alors changer de travail, et de refaire un. Mais je crois qu'il y a des cinéastes qui font ça, qui font un travail et qui font un film toujours autour de leur travail. Mais pourquoi pas?
Oui, c'est un système de production indépendant vraiment très, très intéressant, quoi. D'accord, donc tu fais ce film qu'on aura l'occasion de voir d'ici un an, à peu près, voilà,
J'attends
qui sera
juste
monté
de.
par Julie Borvon, qui est en train de préparer ses affaires
Ouais,
pour sa performance avec Caroline Beret ce soir, samedi soir à Paris. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Tu aurais des choses à rajouter? Ton séjour à Marseille était bien?
Oui, très bien. Non, super. Bah, surtout découvrir le Vidéodrome. Un super lieu, une salle vraiment. Faites pour nos films, quoi, avec une petite salle très conviviale, comme un salon. Non, c'était très chouette.
Bon, chouette. Donc voilà, on était avec Guillaume Bordier, en quête de cinéma, 88.4 Radio Galère. Et vous pouvez la découvrir sur dérive.tv. Il est à peu près 10h15. Il fait toujours pas très beau à Marseille. Et on vous souhaite une bonne journée en espérant vous retrouver à d'autres moments. Au revoir, Guillaume.
Preciso andar ou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
deixe-me precisando vou por aí a procurar fica não chorar quero assistir ao sol nascer ver as águas dos rios correr ouvir os pássaros cantar eu quero nascer quero viver deixe-me preciso andar vou por aí a procurar Rita, não chorar se alguém por mim perguntar diga que eu só vou voltar depois que me encontrar quero assistir ao sol nascer ver as águas dos rios correr ouvir os pássaros cantar eu quero nascer quero viver deixe-me preciso vou por aí a procurar sorri pra não chorar
deixe-me preciso andar vou por aí a procurar sorri pra não chorar
deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar.